Les analyses auxquelles je vais me livrer sur l'entre-deux et l'état d'incertitude propre au personnage lagarcien participent d'un questionnement plus transversal, celui du devenir figure du personnage. Très rapidement, figure est un mot que j'ai découvert en même temps que les écritures de deux autres auteurs contemporains, Noël Renaud et Philippe Mignana, et qui m'a tout de suite intriguée. Quand j'ai questionné les praticiens, acteurs mettant en scène qui travaillaient sur ces textes et que j'observais, il est apparu qu'ils employaient ce terme comme une alternative au vocable de la tradition, le mot personnage, qui leur semblait trop lourd de présupposer, apparemment inadéquat aux créatures qu'ils avaient interprétées à mettre en scène. Ils n'attachaient pas pour autant de définition précise aux dites figures. Je me suis dit que c'était un objet de recherche tout désigné. Décidant de prendre ce mot de figure à la lettre, je me suis donc appliquée pendant quelques années de thèse à voir en quoi cette notion pouvait effectivement être mieux à même de rendre compte de la nature, des fonctionnements, des enjeux théâtraux propres à ce qu'on semblait désigner de fait comme forme alternative de personnage. J'ai fondé mes recherches sur l'œuvre de quatre auteurs français, Jean-Luc Lagarce, Philippe Mignana, Valère Novarina et Noël Renaud. Ce sont des écritures et des univers très différents. À lire le théâtre de ces auteurs, j'avais cependant chaque fois envie instinctivement de parler de figure plutôt que de personnage. J'essayais de comprendre pourquoi, trouver le point d'articulation, l'espace de similitude qui rassemblait ces écritures singulières, c'était définir, en le dépliant, le champ figural du personnage théâtral. Je me concentre maintenant sur la figure lagarcienne. Si l'on se représente le devenir figure comme une ligne de tension dramaturgique, le personnage lagarcien se situe à sa polarité minimale. Il présente en effet la plupart des signes extérieurs propres au personnage classique. Contrairement à ce que pourrait laisser supposer une certaine doxa du contemporain, l'écriture de Lagarce n'évacue ni la fable ni la psychologie. Ainsi, les situations dramatiques mises en place par l'auteur sont toujours contextualisées. On sait globalement où, à quel moment et pourquoi cela se passe. Les constellations de personnages sont bien établies, on repère facilement des réseaux d'alliances et d'oppositions. Les protagonistes ont des identités déterminées, ils ont un âge, un statut professionnel, affectif, familial, et n'en changent pas. Les histoires ont un début, des péripéties et une fin, quitte, cela arrive souvent à ce que l'intrigue se boucle sur elle-même et consiste, pour l'essentiel, en l'affrontement de subjectivités qui ne cessent de se livrer, d'exposer leur intimité, d'analyser leurs relations et leurs comportements mutuels, de revenir sur leur histoire commune. C'est là la matière première, l'énergie dramatique infiniment renouvelable de tout le théâtre lagarcien. D'où l'impression d'une pièce à l'autre, d'une certaine monotonie, au sens musical du terme. Ce caractère monotone constitue pour moi le premier critère de définition des figures, qui sont des spécimens poétiques, avant d'être ou pas, des vecteurs individués de narration, des supports référencés de projection. C'est à l'ouïe, à l'oreille, que s'identifient les personnages lagarciens. Non pas parce que la manière dont ils parlent renvoie à tel ou tel profil type, un serviteur qui parlerait comme un serviteur, un gouverneur comme un gouverneur, mais à l'inverse, parce que tous les personnages parlent d'une manière particulière, toujours la même. De texte en texte, c'est d'une communauté linguistique autonome, d'une langue étrangère dont les personnages sont autant d'occurrences qu'on devient familier. Dans son essai sur Racine, Barthes parlait déjà de figures et non de personnages à propos des protagonistes raciniens pour les mêmes raisons. Il s'agit de créatures de langue qui s'appréhendent moins à titre d'individu que comme fonction dramatique différentielle, porteuse d'une même matière obsessionnelle, d'une même rythmique d'énonciation. Que les textes se prêtent ou pas aux analyses narratologiques, le devenir figure du personnage tient toujours à l'invention d'un univers sémantique et d'une langue caractéristique qui fait apparaître ceux qui la parlent comme autant de créatures subsumées sous une même identité mère, une même forme exemplaire de personnage. Dans le théâtre de Lagarce, on peut définir ce prototype matriciel comme une conscience spéculaire hantée d'incertitude. Donc je vais développer un petit peu ces incertitudes qui caractérisent le personnage lagarcien, le entre guillemets. Ce sont des identités fragiles qui peuplent le théâtre de Lagarce, des personnages aux prises avec le mal à dire et le mal être, le leur comme celui des autres. Mal à dire, dans le sens où les locuteurs sont la plupart du temps en position de doute quant à ce qu'ils disent ou d'effort pour tenter de le dire, incapables d'accéder à la parfaite maîtrise de l'expression, dépassés par ou au contraire tenus à distance respectueuse des mots qu'ils emploient. Mal-être, qui est à la fois la cause et la conséquence de cette difficulté qu'a le personnage lagarcien à entendre ou à se faire entendre de l'autre. Il y a peut-être dans ce profil générique quelque chose de l'empreinte et de l'expression intime de son auteur. L'intérêt théâtral de cette figure paradigmatique est évidemment ailleurs. Être une mise en forme sensible, une incarnation emblématique des rapports complexes et complexés à soi, à l'autre, qui font le théâtre et tissent l'histoire de vie de tout un chacun, tels que la psychanalyse, la linguistique nous ont appris à les lire. Quand on lit les textes, Les incertitudes qui caractérisent le personnage et sa parole, l'écart variable, qui se creuse de l'un à l'autre, sont très visibles. Dans le bloc plus ou moins fluide des énoncés, Lagarce greffe en effet presque systématiquement des corps qu'il circonscrit comme étrangers par l'usage de l'italique ou de guillemets. Très manifestement, la lettre du texte vient signifier que les énonciateurs ne font pas corps avec leurs mots. Ils marquent leur distance avec eux, ne les revendiquent pas pleinement. Et pour cause, si l'on se penche sur la nature de ces énoncés mis en exergue, on s'aperçoit qu'il s'agit la plupart du temps de matériaux de récupération, lieu commun, expression figée, proverbe. Ces phrases toutes faites, diversement impersonnelles, jouent au sein de l'œuvre un double rôle. Elles témoignent d'une part d'une impuissance du locuteur lagarcien à ne pas en repasser par les chemins tout tracés du langage. Je vais donner un seul exemple à chaque fois. Ainsi Hélène dans Le Pays lointain, ils étaient ensemble, inséparables et je ne pouvais pas l'ignorer, je n'en avais pas le droit, en italique, je fais avec. Immanquablement, les locuteurs retombent sur des expressions prêtes à parler et s'y résignent, puisqu'on en revient toujours au bout du compte aux mêmes histoires, et il est logique qu'on en revienne aussi à leur formulation éprouvée. Cela dit, l'inépuisable valeur d'échange de ces formules d'usage s'avère aussi leur être parfois d'un utile secours. C'est alors volontairement que le personnage y fait appel pour terminer ses phrases. Madame Foster, dans « Vague souvenir l'année de la peste », ville, comment dire, entre guillemets, ville charmante au demeurant. On s'aperçoit dans ce cas que le recours à un langage auxiliaire commun, à une parole empruntée, comme l'appelle Eric Gunman, permet au locuteur lagarcien d'avancer masqué. Elle relaie ses engagements véritables, l'autorise à ne pas assumer en son nom un avis, l'aide éventuellement à se disculper, fort d'une autorité extérieure. De retour à la citadelle, l'intendant, loin de moi l'idée de faire fi de tout esprit critique, vous savez, cette phrase à tous les frontons, entre guillemets, qui aime bien. D'un point de vue psychologique, le refuge des personnages derrière des sentences attestées n'est cependant pas seulement signe de lâcheté ou de mauvaise foi. Il renvoie très souvent à cette peur que les locuteurs ont de ne pas être bien compris ou de ne pas avoir bien compris, de ne pas employer les bons mots au bon moment, les expressions à bon escient. La seconde, dont j'étais dans ma maison, et j'attendais que la pluie vienne, je le pensais sincèrement, je le désirais avec sincérité, je voulais mourir, en italique, j'appelais la mort de mes vœux, c'est comme ça. La volonté appliquée et inquiète de bien dire, les efforts pour s'élever au-dessus de sa condition linguistique, le souci pointilleux de correction, font partie de ces matériaux énonciatifs qui caractérisent de manière privilégiée la langue de l'auteur, lui donnent de texte en texte son homogénéité et finissent par définir le locuteur lagarcien dans ses multiples déclinaisons variations. Les précautions protocolaires dont le parleur enveloppe son discours, son recours réitéré aux formules d'excuses de politesse, contribuent ainsi à faire de lui un être pour qui parler avec l'autre ne va jamais de soi, prendre la parole est toujours une épreuve et une mise à l'épreuve. Cette inquiétude du locuteur lagarcien quant au bien fondé de son propos, son avancée à tâtons dans le langage, interprétable en termes psychologiques, psychanalytiques, s'accomplissent en une dramaturgie, une poétique spécifique, en l'occurrence métalinguistique. Dans l'écriture de Lagarce, l'incertitude qui affecte en profondeur les énonciateurs n'est autre que celle de leur position au sein même de la parole. Ce sont des identités qui ont du mal à affirmer leur place et à trouver leur équilibre, tant dans le rapport incertain qu'elles entretiennent avec leurs propres mots que dans l'économie générale des échanges. Lagarce invente un théâtre où chacun rejoue sa place au moment même où il prend la parole. La plupart du temps, les drames ont déjà eu lieu, les faits sont irrévocables, mais tout reste à raconter. Ce qui importe vraiment, c'est ce qu'on en dit et comment on le dit. L'enjeu est de taille et explique que les locuteurs se tiennent sur leur garde. Leurs paroles font moins avancer la situation qu'elles ne la vrillent, à coup d'hypothèses réservées, de rectifications, de reprises. C'est dans ce procès incertain de l'énonciation, piétinant, gêné, ressassant, que se profilent les identités lagarciennes et leurs fragilités caractéristiques. Dans un mouvement d'infinie précision, l'expression est d'Adèle Chanelot, de perpétuelle autocorrection, le locuteur module en direct sa parole, infléchit ses intentions, tente de restituer faits, dire, penser, en les envisageant dans toute la complexité de leurs tenants et de leurs aboutissants. Je cite un extrait du Pays lointain, Catherine. « Mais lui, il peut en déduire, il pourrait en déduire, il en déduit certainement, il peut en déduire que sa vie ne vous intéresse pas ou si vous préférez, je ne voudrais pas avoir l'air de vous faire un mauvais procès, il croit probablement, je pense qu'il est ainsi, il ne devait pas être différent plus jeune, vous devez vous en souvenir, il croit probablement que ce qu'il fait n'est pas intéressant ou digne, le mot exact, digne de vous intéresser. » Le dessin alambiqué de la phrase suit les mouvements complexes, bancals du locuteur au sein de son discours. Celui qui parle ne se contente presque jamais de dire ce qu'il a à dire, il ouvre aussi le champ de toutes les hypothèses possibles, les commente, anticipe les réactions de son interlocuteur, s'excuse. Cette prise en compte inquiète de celui à qui on s'adresse ce désir poussé jusqu'à l'obsession de la correction, au double sens de politesse et de bonne formulation, caractérise l'énonciateur lagarcien, qui a pour spécificité majeure d'être son premier récepteur et commentateur. Les personnages lagarciens sont des êtres réflexifs qui, parlant, s'entendent parler. Souvent, ils se font juges et censeurs d'une parole qu'ils n'estiment jamais assez vraie, assez juste. Mais ils peuvent tout aussi bien exprimer en toute lucidité leur incapacité à vraiment dire quelque chose en propre. La nourrice, dans Vague souvenir l'année de la peste, j'ai décidé d'attendre là, je ne voulais plus bouger, entre guillemets, j'attendais mon heure. Je disais cela, je l'avais entendu quelque part et je le répétais, j'attends mon heure. Ce dialogue critique que l'énonciateur noue sur l'un ou l'autre mode avec ses propres énoncés fait du personnage lagarcien une sorte de conscience exemplaire et ironique de ce qui constitue, pour Deleuze et Guattari, la condition même du langage, à savoir être un discours indirect. Je cite là un extrait de Mille Plateaux, postulat de la linguistique. Nous ne croyons pas que le récit consiste à communiquer ce qu'on a vu, mais à transmettre ce qu'on a entendu, ce qu'un autre vous a dit, oui dire. Le premier langage, ou plutôt la première détermination qui remplit le langage, ce n'est pas le trope ou la métaphore, c'est le discours indirect. C'est pourquoi il n'est jamais non plus question chez Lagarce d'une impuissance absolue. Il y a, dans le simple fait de mettre en scène la nature impérieuse et impersonnelle de la parole, un intérêt non accessoire. La conscience des déterminismes, à défaut de pouvoir les annuler, ouvre un espace où il est possible d'en jouer. Les locuteurs lagarciens ne sont pas dupes de leur discours, ou alors c'est volontairement avec humour qu'ils se dupent. Louis, par exemple, dans Le Pays lointain, l'année d'après, comme on commémore, je me suis dit ça, les expressions que j'emploie, solennelles, comme on commémore, les expressions que j'utilise pour me moquer un peu de mon propre sérieux et me faire sourire derrière le masque. Le personnage s'amuse alors de ce pouvoir qu'a le langage de faire bonne figure, d'affubler un même événement, un même état ou de fait, d'atours choisis, contrastés, qui en modifient la perception. Dans l'œuvre, d'autres personnages récupèrent tout aussi ironiquement la puissance de définition et de catégorisation propre au commerce de la parole et, renversant leur tendance naturelle au lieu commun, se constituent alors eux-mêmes en clichés. L'aîné, dont j'étais dans ma maison, on me regarde marcher sur la route, je marche exactement comme ils veulent que je marche, j'ai mon pas serré de garce respectable, mademoiselle l'institutrice. Dans ces deux exemples, se voit formuler très expressément un principe et une logique de dédoublement qui valent, de manière générale, pour l'ensemble des énonciateurs lagarciens, qui sont toujours des identités spéculaires, des êtres de l'entre-deux, tenus dans l'écart dynamique, sans cesse différé, de l'imposition de leur rôle ou de la composition de leur personnage. En ce sens, l'œuvre de Lagarce témoigne d'un rapport au monde globalement théâtralisé, où l'on ne peut se définir que par modèle, procuration, usurpation identitaire, où la fabrique d'un caractère n'est plus seulement question d'illusion dramatique, mais devient le rapport même de l'être à son existence. J'avais choisi la même citation, le même extrait du Luxe et de l'impuissance, mais je la prenais un peu plus haut. À ne pas admettre sa propre vie, ses propres lâchetés, son arrangement, toujours avec la réalité, à ne parler que des autres, les jugements définitifs que nous assenons sur leur vie, leurs erreurs, leurs victoires et leurs imbéciles défaites. Nous mourons, nous sommes morts, nous regardons le spectacle. Tout nous est spectacle, la vie nous quitte, nous ne nous interrogeons plus, nous nous aimons tels que nous avons patiemment décidé d'être, nous trichons. L'écriture et le théâtre de Lagarce reposent sur une certitude paradoxale, celle qui ne sera jamais question de formuler une parole authentique, qui révélerait l'être dans sa singularité, parviendrait à exprimer sa vérité. Non pas seulement en raison de cette conscience aiguë qu'on ne pourra que dire encore la même chose, en revenir aux mêmes histoires, mais plus encore précisément du fait qu'il ne s'agit toujours peut-être, en dernier lieu, que d'histoire. La parole est autant ce qui révèle, débusque l'être, que ce qui lui permet de se dissimuler. L'identité lagarcienne est d'abord affaire de mots choisis. Dans les textes, les énonciateurs, justement placés dans un rapport d'extrême lucidité vis-à-vis des mots, entretiennent avec eux une relation de compromis. Dans la masse des paroles déjà prononcées, ils prélèvent celles qu'ils estiment, avec plus ou moins de bonne foi, les plus justes, tentent de trouver l'arrangement par lequel ils pourront se bricoler une identité, se composer un rôle qui leur convienne. Entre parade, esquive et pavane, se faisant tour à tour des paroles substitutives, un bouclier ou un miroir, les personnages ne se profilent qu'à distance, dans l'entre-deux constant de l'autocritique ironique et la conscience plus ou moins douloureuse d'être soumis aux sentences de l'autre. Sur la scène lagarcienne, c'est toujours entre mots infligés et mots conquis que les identités comme les histoires, vaille que vaille, se fabriquent.
Les laisser s'installer.
Cette notion de fabrique, loin d'être métaphorique, s'avère consubstantielle à la dramaturgie lagarcienne, dramaturgie du processus de l'élaboration en direct. dans ce théâtre qu'on pourrait qualifier assurément de théâtre de l'intime et de l'introspection. Il n'est en effet jamais question d'enfermement égotique, mais au contraire de mise en forme plurielle et de mise à disposition publique de l'ensemble des matériaux dramatiques. Le spéculaire toujours s'articule au spectaculaire. J'en viens ainsi au second point de mon analyse, beaucoup plus court, qui est aussi le deuxième critère de définition des figures. Le fait que les personnages lagarciens prennent acte de la réalité scénique, que les histoires qu'ils jouent ou racontent s'informent toujours à vue du spectateur. Donc deuxième partie, le personnage lagarcien dans l'entre-deux du drame et de sa représentation. Dans toute son œuvre, portée par la pulsion et la quête du dire vrai, de l'aveu, Lagarce substitue à la traditionnelle illusion dramatique une sorte de vérité de l'illusion fondée sur le franc-jeu, le jeu avoué du faire-semblant. Dans ce théâtre, il y a bel et bien persistance d'un microcosme fictif, mais mis en scène par les personnages eux-mêmes, parfois sur un mode métathéâtral, dans les pièces où les personnages sont expressément des acteurs, nous les héros, musical, mais très souvent selon la simple logique du jeu de rôle. C'est à ce dernier mode, plus troublant car sans justification vraisemblable, que je m'intéresse ici. Dans un grand nombre de textes, des personnages que rien ne prédestine à assurer ce genre de service viennent en effet, dans des sortes de prologues, se présenter et exposer en personne les grandes lignes du drame qu'ils s'apprêtent à jouer. Déléguant cette tâche à une sorte de coryphée ou l'assumant choralement, les personnages entrent en scène pour jouer frontalement le jeu de la traditionnelle scène d'exposition. Cette prise de parole inaugurale place les parleurs dans un rapport équivoque à la représentation, ni tout à fait épique, ni tout à fait dramatique. Les personnages sont à la fois commentateurs et partie prenante du drame qu'ils annoncent, ils en anticipent les événements, en explicitent à l'occasion les enjeux, et se tiennent donc, paradoxalement et simultanément, en amont et en aval des histoires à jouer. La scène d'introduction lagarcienne a en ce sens moins pour fonction d'amorcer le drame que sa mise en représentation. Les personnages entrent à vue dans leur rôle, ils assument en les nommant comme tels leur charge d'entité fictive. Toute la dramaturgie du pays lointain, dernière pièce de Lagarce et d'une certaine manière pièce somme, ne repose même que sur cet entre-deux, Françoise en a parlé, qui consiste à configurer et à mettre en scène, en temps réel et en personne, le champ de la fiction dramatique. Dans ce texte, l'auteur fait en effet porter à ses personnages le projet même de l'écriture, la remise en jeu d'un texte écrit 10 ans plus tôt, juste la fin du monde, en dotant ses protagonistes d'un statut flottant, tour à tour acteurs et récitants, maîtres d'œuvre et ouvriers, d'événements qui ne se jouent effectivement qu'au second degré. Les personnages, qui se remettent à l'œuvre de la représentation, relèvent d'un espace-temps trouble, oscillant constamment entre narration rétrospective et reconstitution dramatique. Sur scène, le spectateur voit des entités de fiction qui jouent et racontent leur histoire à leur propre compte, selon la géométrie variable des rapports qu'elles instaurent avec les diverses facettes de leur rôle, de l'identification complète à l'amusement distancié. Au-delà de ce cas particulier qu'est le pays lointain, c'est toute la ruse dramaturgique de Lagarce que de faire de ces personnages des acteurs au service et au travail de leur propre représentation. Souvent, l'auteur parasite ainsi les échanges dénoncés qui mettent très explicitement en scène le tour ou la prise de parole, qui cite la réplique. Retour à la citadelle, le tout début, la sœur, c'est à moi. Et puis à la fin, on l'attendait et puis il arriva. Non, pardon. Et puis à la fin, on ne l'attendait plus et il arriva. Mais Lagarce peut tout aussi bien choisir de faire naviguer les énonciateurs entre les rôles. Les personnages pallient alors les trous de mémoire de leurs partenaires, les aident à retrouver le fil de ce qu'ils sont censés dire après une digression, les reprennent en cas d'erreur de texte. À rebours du jaillissement spontané supposé propre au genre dramatique, Lagarce, qui fait fiction de la double énonciation théâtrale, fait apparaître ses personnages comme les officiants d'une représentation dont il veille collectivement au déroulement en bonne et due forme, c'est-à-dire tel qu'il était prévu. Dans l'œuvre, toutes les pièces n'affichent pas de prime abord leur dimension protocolaire. Pour autant, il est rarement question chez Lagarce de microcosmes fictifs absolument dramatiques. L'auteur, qui fait du récit le principal moteur de son écriture, recourt en effet imparablement au procédé caractéristique de la distanciation brechtienne, transposition à la troisième personne, transposition au passé, énoncé d'indications scéniques et de commentaires, et de fait place ses locuteurs en position de récitant. La plupart du temps, les personnages lagarciens ne vivent pas leur drame, ils racontent comment ils l'ont vécu. Dans ce théâtre où la parole se présente d'abord comme redite, reprise, variation autour d'un événement qui a déjà eu lieu, le drame n'est ainsi souvent, à proprement parler, que l'alibi, c'est-à-dire à la fois l'ailleurs et le prétexte, de la représentation à laquelle le spectateur assiste. Or, sporadiquement, certains épisodes de cet ailleurs autrefois interfèrent justement au présent, comme des ponctions, des prélèvements d'un tissu dramatique qui serait greffé sur un matériau par ailleurs globalement épique, épicisé. l'auteur qui fait d'abord de ses personnages des narrateurs, mais qui choisit à l'occasion de les faire renouer avec leur rôle, d'en présenter des morceaux choisis, de faire une scène, leur confère au bout du compte un statut indécis. Les personnages, tour à tour aux prises avec et à distance du drame, sans qu'aucune de ces positions ne l'emporte définitivement, soit placée en état de suspens temporel, pris dans un entremêlement gigogne d'espace-temps que seul le creuset de l'ici maintenant théâtral permet en définitive de concilier. La spécificité de l'écriture lagarcienne est en ce sens moins de perturber le développement organique du drame via la logique du récit, que de créer des moments absolument dramatiques dans un contexte qui par ailleurs s'avère essentiellement narratif. Ces effets d'instabilité énonciative ébranlent le rapport de croyance et le régime de lecture qui lie le spectateur aux images que la scène lui propose. Par invalidation multiple des cadres et des situations supposément installées, on finit ainsi souvent par ne plus trop savoir si les événements qui nous parviennent sur le mode du flashback ou s'ils sont reconstitués en direct par les personnages. Tout comme on finit par perdre la notion du temps qui sépare ou pas l'accomplissement des faits de leur restitution effective. L'intérêt est, je crois, de ne pas trancher, de préserver cet état d'incertitude. Dans « J'étais dans ma maison », Lagarce s'emploie en tout cas, par l'emploi de déictiques ambiguës, à creuser cette indistinction jusqu'à rendre vaine toute prétention discriminante. Je cite les dernières phrases de la pièce. L'aîné, ce que nous faisons, le reste de la nuit, toute cette nuit, aujourd'hui, la nuit de son retour, le jeune frère, ce qu'on fait, on ne se couche pas, on chante notre chanson, on danse notre danse un peu lente, toutes les cinq. Placé dans l'entre-deux équivoque du temps du drame et de celui de son énonciation, de sa représentation ici et maintenant, les personnages, aux limites instables du récit, n'ont finalement d'autre statut que celui que leur confère, provisoirement, plus ou moins furtivement, la parole qui les met en scène autant qu'ils la mettent en scène. Les figures lagarciennes adviennent en informant sous les yeux du spectateur les paysages contrastés de leur imaginaire dramatique, qu'elles règlent en temps réel en personne, réajustent régulièrement, dans un va-et-vient constant entre imagination et souvenir, fait présent et passé, avéré ou supposé. La parole lagarcienne ne construit rien d'autre que cet espace de probabilité, cette réalité instable-là. C'est un trouble profondément contemporain et essentiellement théâtral. J'ai fini.